Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Échos de l'innovation sur Graphite 94.9. Une émission présentée par des étudiants en école d'ingénieur à l'UTC, traitant entre autres des sujets sociétaux, politiques, scientifiques et technologiques. Mais aujourd'hui, c'est cinéma. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'excellent Jason.
Bonjour à tous.
Le brillant Oscar.
Salut.
La talentueuse Anna.
Salut à tous.
L'éblouissant Souleyman.
Bonjour à tous.
Le remarquable Louis.
Hello.
L'époustouflante Margot.
Bonjour tout le monde.
Et Timothée.
Bonjour. Moi, j'ai pas de compliments apparemment, mais c'est pas grave.
Alors, je suis heureux d'introduire notre invité du jour, Timothée, qui est un UTEC au multicasquette, qui nous fait le plaisir de compléter l'effectif, malgré la com qu'il est en train d'organiser et qui lui demande beaucoup de temps. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, tu prends la casquette de Cinémute.
Ouais, c'est un peu ça. Donc membre de l'assaut de Cinémute, même si ce semestre, avec justement ce que tu disais, la com, j'ai pas beaucoup le temps de participer, mais je suis là, comme tu disais, pour parler de cinéma et puis je vous en parlerai un peu plus tard lors de ma chronique.
Super. Donc maintenant que le tour de table est fait, éteignons les lumières ainsi que nos téléphones et préparons-nous à apprécier ce film de qualité pour savourer, comme il se doit, le premier épisode des Échos de l'innovation sur le 7e art. Et donc, nous avons le plaisir de commencer avec Margot, qui va nous présenter les 5 idées reçues sur le cinéma. Donc, je te laisse la main.
Donc, comme tu l'as si bien dit, nous allons commencer notre émission avec nos 5 idées reçues. Donc, la première idée reçue concerne les voyages à la vitesse de la lumière. Les fans de Star Wars seront peut-être déçus, mais il est impossible de voyager à la vitesse de la lumière. En effet, la vitesse de la lumière est estimée à environ 300 000 km par seconde. Et selon nos connaissances actuelles, aucun objet ne peut aller plus vite que cette vitesse-là. Donc, seule la lumière peut aller le plus vite possible. La deuxième idée reçue repose sur le fait que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. C'est une idée assez alléchante que des films comme Lucie de Luc Besson ont contribué à populariser. Utiliser 100% de notre cerveau nous rendrait donc plus évolués. Sauf que c'est faux, on utilise tous la totalité de notre cerveau. Il n'existe aucune partie dormante attendant d'être exploitée. Néanmoins, il est vrai que notre cerveau est compartimenté, c'est-à-dire qu'il est divisé en zones et chacune de ces zones occupe une fonction précise. Ce qui est vrai en outre, c'est que nous n'utilisons pas toutes les zones de notre cerveau en même temps. Certains scientifiques estiment que nous utilisons à peu près 35% des zones de notre cerveau simultanément. La troisième idée reçue est que la communication dans l'espace serait instantanée. Souvent dans les films, les conversations spatiales se font du tac au tac. Et pourtant, si on envoyait un message à la vitesse de la lumière depuis Mars jusqu'à une station relais terrestre, le message mettrait entre 3 et 22 minutes pour traverser le vide interplanétaire, selon la position de Mars. Pas très pratique pour le timing des blagues. La quatrième idée reçue concerne les explosions dans l'espace. Ah, les explosions au cinéma, une scène typique de tout film d'action. Et pourtant, les explosions enflammées comme celle du film Armageddon sont irréalisables dans l'espace. En effet, il n'y a pas de milieu matériel dans l'espace, donc pas d'air pour permettre la propagation du son de l'explosion. Et il n'y a pas non plus de dioxygène, un élément pourtant indispensable à la formation de flammes. Dommage. La cinquième et dernière idée reçue repose sur le fait qu'il suffirait de quelques secondes de chloroforme sous le nez pour qu'on tombe dans les pommes. Évidemment, ça ne marche pas. Sinon, on aurait trouvé la méthode pour s'endormir tout de suite, tous les soirs, en mode express, et adieu les insomnies. Certes, le chloroforme peut étourdir puisqu'il a des vertus anesthésiques, mais il ne permet pas de faire perdre connaissance à quelqu'un. Ou alors, il faudrait l'associer à d'autres substances. Et bien sûr, il faut l'avoir plusieurs minutes dans le nez pour que ça fasse effet. Disons que pour une scène de cinéma, ce serait tout de suite assez long à regarder.
Merci Margot pour ce tuto meurtre. On peut quand même l'applaudir s'il vous plaît. Pour la première chronique de la saison. Donc tu nous as parlé de pas mal de choses très intéressantes, des idées reçues, mais il y a d'autres idées reçues qu'on peut retrouver, notamment dans le dessin animé. avec Jason qui va nous présenter une chronique sur les Simpsons.
Effectivement, aujourd'hui je vais vous parler de nos amis jaunes des Simpsons. On va voir si Homer Simpson est le prophète du 21e siècle.
Quoi ?
Déjà, qu'est-ce qu'un prophète ? Étymologiquement, prophète, ça signifie prédire, dire publiquement ou encore révéler. Au sens religieux, un prophète, c'est le personnage qui, grâce à la volonté de Dieu, prédit l'avenir et révèle aux hommes des événements qui vont se réaliser dans le futur. Mais par extension, au sens plus commun et familier, le prophète, c'est celui qui, par hasard, annonce ce qui va arriver. Mais alors, qu'est-ce qui peut se rapprocher de la prophétie dans notre célèbre série TV des Simpsons ? On a presque tous déjà vu passer sur les différents réseaux sociaux des anecdotes avec des titres à guichard tels que « Les Simpsons ont prédit Donald Trump à la Maison Blanche », avec plein d'images tirées de la série qui mettent en scène explicitement différentes situations dans lesquelles Trump exerce son rôle de président des États-Unis. Situations qui se sont réalisées à l'identique dans notre monde. Ou encore, Homer avait prévu l'incendie à Notre-Dame de Paris, avec une image en dessous montrant la cathédrale Notre-Dame de Springfield en feu. En fait, Notre-Dame de Springfield, c'est la cathédrale des Simpsons, inspirée de la vraie Notre-Dame. Je vais mettre fin aux espoirs, pour Notre-Dame, c'est juste un montage. Elle a jamais brûlé dans les Simpsons. Pour Trump, c'était des images créées toutes pièces par les internautes qui reprenaient des situations déjà existantes. Pour ce qui est de Trump, il y a effectivement eu une petite prédiction dans la série, mais c'est beaucoup moins explicite. Dans un épisode, Lisa, la fille de Homer, finit présidente et lâche « on va rattraper le merdier que nous a laissé Trump ». Finalement, il y a plein de prédictions qui sont fausses, mais ces fausses prophéties ont eu la visibilité sur les réseaux sociaux grâce au buzz de certaines prédictions réelles. En effet, si on revient à notre sujet, le cinéma influence-t-il les avancées scientifiques ? La série a réellement prévu des avancées technologiques ou scientifiques. Dans un épisode, on voit Homer Simpson avec un grand chapeau dans lequel se cache une caméra pour récolter des informations sur quelqu'un. Ça fait grandement penser à la GoPro, caméra miniaturisée, et aux ancêtres des caméras cachées. Dans un autre épisode, Homer donne une théorie sur la forme de l'univers en donuts à Stephen Hawking, qui se montre très intéressé. On pourrait croire que c'est seulement une référence à l'aliment préféré d'Homer, mais quelques temps plus tard, des scientifiques émettent l'hypothèse que l'univers n'est pas infini et se replient sur lui-même pour former une sorte de donut géant. Une autre fois, Homer décide de devenir inventeur. Il écrit alors une formule pour sa première invention sur un tableau, et 14 ans plus tard, des scientifiques découvrent la formule du boson de Higgs. Ça explique comment les éléments de l'univers ont acquis leur masse, et ce qui est fou, c'est que le résultat et la formule d'Homer sont quasiment les mêmes que les vrais. Homer Simpson annonce-t-il vraiment par hasard ce qui va arriver comme le ferait un prophète du XXIe siècle ? En fait, les scénaristes mettent en situation des personnages humanoïdes dans une société parallèle fidèle et similaire à la nôtre, avec tous les problèmes humains et sociétaux qui vont avec, que ce soit les problèmes politiques, économiques, etc. Les réalisateurs et producteurs, travaillant avec des professionnels de nombreux domaines, ils reprennent nos actualités pour créer un univers réaliste. Ça explique que certains des scientifiques travaillant avec la réalisation aient déjà eu vent de ces théories, mais les réutilisent pour créer de l'absurde. Peut-être qu'Homer Simpson ne lance pas des présages par pure coïncidence. Il est peut-être pas aussi débile que la série aimerait qu'on le pense. Homer Simpson n'est pas un prophète. Homer Simpson est un grand intellectuel omniscient. Il est à la fois économiste, politique et scientifique. Et c'est tout.
Merci.
Ah oui, ok.
Je savais pas autant qu'il y avait eu autant de prédictions et le taf des scénaristes est fou du coup.
Ouais, et puis il y a du monde derrière, donc c'est ça qui est...
Ouais, j'avais entendu qu'ils s'étaient entourés de mathématiciens, de physiciens, tout ça. Donc ouais, c'est intéressant. C'est
exactement.
Et c'est également quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé au XXe siècle, pendant la guerre froide notamment, où les auteurs de films, etc., s'entouraient beaucoup de scientifiques, afin notamment de contextualiser davantage la chose, de la rendre plus réaliste. Et à ce sujet, Timothée va nous interpréter sa chronique. Je vous prie d'accueillir Timothée.
Eh bien, merci pour l'invitation. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu du cinéma. Donc, évidemment, c'est le thème, mais donc on sait que c'est un art aux multiples facettes. Et il y a de nombreux penseurs qui se sont questionnés sur la nature intrinsèque de ce médium. Donc quand on parle de bons films ou de films qui nous ont plu, on peut évoquer parfois par exemple le jeu d'acteur ou la beauté d'un plan. Mais ces arguments, ils pourraient être attachés à d'autres formes d'art. Le jeu d'acteur pourrait très bien être un argument pour valoriser une pièce de théâtre qui nous a plu, ou un très beau plan pourrait être représenté par une photographie. La vraie question, c'est de se dire, finalement, le cinéma, qu'est-ce qui le définit et qu'est-ce qui est unique dans le cinéma. Et je me suis tourné vers le montage, finalement, le fait d'agencer différents plans pour raconter quelque chose. Dans cette optique, il y a plusieurs écoles qui s'opposent et qui défendent différentes visions du montage. Aux prémices du cinéma, je vais vous faire un petit point d'histoire, mais aux prémices du cinéma, l'une d'elles est apparue dans le froid de l'Europe de l'Est, à savoir l'école soviétique. Suite à la révolution russe de 1917, Lénine désigne le cinéma comme un art d'une importance capitale dans la diffusion des idées de la révolution. Des cinéastes apparaissent alors sous l'impulsion de ce nouveau régime, l'un d'eux se prénommant Sergei Eisenstein. Peut-être que pour l'instant ça vous évoque rien, mais je vais vous en parler un peu plus en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que Eisenstein, dans son travail, il cherche à créer une œuvre totale, un film qui, au-delà de l'histoire, doit avoir un but politique et servir à éduquer les foules et à lever des révolutions. Et pour Eisenstein, la nature même du cinéma, on peut la retrouver justement dans le montage. Et c'est vraiment cet outil-là, cette technique, qu'il va utiliser tout au long de ses films pour faire passer ses idées. Il faut savoir qu'Eisenstein s'oppose à l'époque, donc il est un cinéaste du XXe siècle, donc de 1920, autour de ces années-là. Et donc il s'oppose à l'époque à un montage hollywoodien, donc plutôt américain, qui met l'accent sur la narration et l'esthétique parfaite. Dans le cinéma hollywoodien, on va retrouver surtout des plans longs, de deux personnages par exemple qui discutent, ou d'une scène. Mais on va dire qu'il n'y aura pas de montage qui vont être très saccadés ou voilà, qui vont avoir un enchaînement rapide. Et justement, pour lui, Eisenstein, le film, il ne peut pas simplement se contenter de présenter, de montrer des événements, mais c'est une sélection tendancieuse de ces événements, leur confrontation affranchie de tâches étroitement liées au sujet en réalisant conformément à l'objectif idéologique d'ensemble. C'est un façonnage adéquat du public. L'idée, en fait, c'est de dire que l'image qui va être projetée va évoquer certaines choses au spectateur, et c'est cette évocation-là qui va faire réfléchir, et c'est un des premiers à théoriser l'idée que le cinéma n'est pas juste quelque chose pour montrer, mais c'est quelque chose qui fait réfléchir. Et justement, cette idée naît son concept, le montage d'attraction. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Ce type de montage, d'une part, il aura un impact énorme. Il faut savoir que, certes, c'est un réalisateur donc, de l'époque bolchevique dans les années 20, mais on va le retrouver chez d'autres réalisateurs américains, européens, comme Lang, Walter Benjamin, qui lui-même, d'ailleurs, va nommer ce montage comme l'image dialectique, mais qui, finalement, est la même technique. Et on retrouvera d'ailleurs un hommage à un de ses films dans le film de Brian De Palma. Peut-être que ça vous évoque quelque chose, The Untouchable ou Les Incorruptibles, qui est un film donc, de 1987 et qui justement reprend l'idée de policiers qui sont incorruptibles et donc qui vont essayer de se battre contre un système qui est véreux. Et justement, donc on trouve dans ce film-là une reprise de la scène culte de l'escalier de Potemkin, aussi appelé l'escalier Richelieu, qui avec justement une poussette qui dégringole dans l'escalier. Je vais y revenir un peu plus tard dans la chronique. On visualise donc l'importance de Eisenstein et de son montage d'attraction dans le cinéma en général. Mais finalement, qu'est-ce que techniquement on entend par montage d'attraction? On va prendre un exemple très simple. Si on prend une scène de crime représentée au cinéma, pour faire écho à Margot, on va avoir par exemple la main saisissant la gorge, puis les yeux qui remontent sur le front, un couteau brandi, la victime qui ferme les yeux, le sang qui jaillit sur le mur, la victime tombe par terre, et une main essuie le couteau. Ces éléments-là pris séparément, finalement, ne vont pas forcément nous évoquer quelque chose, mais c'est le liant, le montage, qui vont justement créer de ces fragments une association. Et c'est justement cette notion d'association qui est centrale dans le concept d'Eisenstein pour évoquer certaines choses. Pour lui, ce type de montage, ce ne sont pas les phénomènes qu'on confronte qui sont importants, donc le récit, mais les enchaînements d'associations liés dans l'esprit du spectateur pour donner finalement un phénomène particulier. Dans son montage, on va retrouver en fait des enchaînements de plans qui ne sont pas forcément réalistes, justement à l'opposé des visions hollywoodiennes, qui ne respectent pas certaines règles de cadrage, Je pense par exemple à la règle des 180 degrés, si ça évoque des choses à certaines personnes. Mais qui vont être là justement pour choquer ou pour toucher la personne. On retrouve donc dans tous ces films ce type de montage, notamment dans deux principaux, à savoir The Strike, ou La Grève, et Le Cuirassé Potemkin, dont justement les Intouchables s'inspirent, et je vais justement vous détailler un peu plus ces scènes-là pour que vous en rendiez compte. Un rapide résumé, Le Cuirassé Potemkin, c'est en 5 actes, et on va se concentrer sur le quatrième. Les trois premiers, on va dire, annoncent le quatrième. Faut savoir que l'idée, c'est une révolution de marins qui vont faire une mutinerie face à leurs officiers. Et c'est un peu l'opposition du peuple face aux gouvernants à l'époque, en tout cas les tsars, etc. Et justement, dans l'acte 4, il y a une cristallisation de cette technique avec le montage d'attractions et le peuple qui va se faire donc abattre sur les escaliers par la garde russe, enfin la garde tsar à l'époque. Et justement, ça va être une succession de différents plans qui vont être particulièrement marqués, violents. On retrouve d'ailleurs cette idée dans The Strike où il y a un parallèle entre les fusillés et les abattoirs. On va avoir des enchaînements de plans qui, à l'époque en tout cas, est très novateur, puisque pour The Strike, ces enchaînements-là ne sont pas cohérents dans l'histoire. Il n'y avait pas d'abattoir lorsqu'il se faisait tirer dessus. Mais c'est la violence de ces abattoirs et la violence des conflits qui va mettre en lumière le sentiment d'une part d'appartenance et puis aussi de violence et de dégoût. Voilà. Et justement, ces conflits, donc, qui sont présentés au sein des images, c'est des conflits qui sont plutôt internes, on va dire, qui vont faire écho à quelque chose intérieur du spectateur et non pas un récit extérieur dont on n'arrive pas à accrocher le sentiment. En tout cas, voilà, je vous conseille fortement de visionner les films d'Eisenstein, que ce soit pour l'influence qu'il a eue sur le cinéma ou pour la manière de montrer la révolution d'un peuple et de faire passer des émotions. Et je vous conseille aussi la chaîne Cinéma et Politique, dont je me suis inspiré pour ces chroniques-là, qui retrace un peu tous ces éléments-là.
Merci Timothée. On peut quand même l'applaudir pour cette chronique. Merci, merci. Ultra intéressant.
Merci beaucoup.
Et c'est important c'est intéressant de comprendre l'impact que certains films peuvent avoir sur la société, et directement à partir des techniques, des méthodes qu'on peut employer dans le cinéma, donc c'est très intéressant. Et nous allons directement enchaîner avec le jeu. Le jeu de Anna. Jingle. Allez, le jeu.
Du coup, le jeu que je vous propose aujourd'hui, il est sous forme de quiz. Alors, je vous explique les règles rapidement. Je vais vous donner une invention ou une avancée technologique et il va falloir me dire si elle a été imaginée premièrement dans la science-fiction ou si elle a d'abord été créée dans la vraie vie. Ok ? Donc prenons l'exemple par exemple de l'overboard. Est-ce que vous savez ce que c'est l'overboard ?
Ouais.
Oui. Non.
Ok. Et bien l'overboard, du coup, c'est un skateboard volant et qu'on retrouve notamment dans Le Retour vers le futur 2, qui est sorti en 1989. Et donc, en gros, il permet de se déplacer comme sur un skate, mais sans fournir d'efforts. Et donc, la question, c'est est-ce que ça existait avant qu'on le retrouve dans ce film, selon vous, ou pas ?
Je ne pense pas.
Oui, je pense que ça vient du film à la base. Mais...
Ok, vous avez raison. Il a été inventé en début 2013. Et là, je parle de celui qu'on retrouvait dans la rue en 2016 partout, là. Celui avec les roues. Mais il faut savoir que l'overboard de Marty McFly existe vraiment. Depuis 2016, en gros, c'est une planche volante qui utilise 36 ventilateurs électriques et qui permet de supporter 200 kg à une hauteur de 30 cm au-dessus du sol. Et la vitesse maximum, elle est de 20 km/h pour une autonomie, par contre, de 6 minutes. Et à sa sortie, il fallait compter 15 000 euros minimum pour l'acheter.
On est quand même à 200 kg.
Mais bon.
Et en plus de ça, il me semble qu'il y a une planche un peu similaire qui a été développée, mais avec le principe de superconductivité, qui est l'idée d'avoir des matériaux extrêmement froids et qui permet justement une lévitation du matériel et du coup aucun frottement. Mais c'est que sur des surfaces particulières et c'est encore à l'espace de projet, mais voilà, pour rejoindre justement cette idée de, d'Overboard.
Ça existe sur des rails, justement, donc il n'y a pas cette liberté-là de faire des figures dans les airs comme le faisait
Marty.
Marty McFly. La seconde innovation du coup que j'ai à proposer, c'est l'hologramme. C'est le procédé de photographie en relief. Ça représente une image, ou plutôt une vidéo en général, en trois dimensions. On le voit notamment dans les films comme Star Wars, où quand ils souhaitent envoyer un message à distance, on voit par exemple Yoda qui parle à Luke Skywalker et en étant synthétisé en trois dimensions par le robot R2-D2. Est-ce que vous pensez que ces hologrammes, ils étaient inventés avant qu'on les retrouve dans ces différentes œuvres de fiction ou pas ?
Moi, je pense que oui.
Ouais, je pense aussi. Je suis pas sûr.
Moi, j'aurais dit oui aussi, parce que le premier film Star Wars est quand même très ancien. Et en termes d'effets spéciaux, je suis pas sûr qu'ils étaient capables de le faire s'il n'y avait pas la technologie pour faire des hologrammes.
Star Wars, c'était du coup en 1977, le premier. Et le principe d'holographie, il a été inventé en 1948. Par le physicien Denis Grabor, qui a obtenu un prix Nobel de physique pour cette découverte en 1971. Et par contre, les premiers vrais hologrammes à grande vitesse, ils ont vu le jour en 1960, grâce à un laser pulsé au rébis. Cette technique a permis d'obtenir des images assez précises d'êtres vivants. Du coup, nouvelle question. Maintenant, la voiture autonome, qu'on retrouve dans beaucoup de films de science-fiction, mais celui auquel on pense en premier, je pense, c'est la Coccinelle, je pense. Et sachant que le premier film date de 1968, de la Coccinelle. Donc, dans le film, la voiture nommée Herbie est personnifiée, elle se comporte comme un humain, et donc elle est conduite toute seule, presque. Et donc, vous pensez que la voiture autonome était inventée avant ou après ? Dans la vraie vie.
Moi, j'aurais dit après, quand même, parce que ça me paraît vachement vieux comme film pour avoir des telles avancées technologiques avant.
Ouais, étant donné que ça demande beaucoup d'intelligence artificielle, etc., et c'était pas forcément développé à l'époque, donc j'aurais aussi tendance à dire après.
C'est bien après, mais est-ce que, enfin, pour vous, ça a inventé quand la première voiture autonome ?
Allez.
Une petite fourchette.
Entre 95 et 2005.
Ok.
Très large.
Ouais, j'aurais dit début des années 2000 aussi.
Ouais.
Ouais, moi aussi, pareil.
Début 21e.
Et bah, la première, c'était en 1977.
Ah ouais ?
Ouais.
C'est ancien.
Une équipe japonaise qui fait rouler la première voiture autonome capable de suivre une voie de signalisation grâce à des capteurs optiques a été mise sur le marché la même année. Et la technologie utilisée consistait à suivre à l'aide de caméras la trajectoire avec des marqueurs reconnaissables au sol. La vitesse maximale, par contre, elle était de 30 km/h. Mais c'était quand même une prouesse pour l'époque. Par contre, le vrai pilotage automatique qu'on peut voir aujourd'hui dans certaines villes, c'était 2015. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu des voitures autonomes ou pas ?
Ouais, personnellement, à San Francisco, tu te balades dans les villes et dans la ville et tu te rends compte qu'il n'y a pas de conducteur dans certaines voitures.
Ah ouais ?
Il y a un truc sur le toit.
Ouais, c'est vraiment impressionnant.
Ah, je sais pas que
c'est déstabilisant
encore.
Aussi.
Ouais.
Okay. Je pensais pas que c'était légal encore. Parce qu'en France, ça l'est pas. Mais je savais pas que c'était légal aux États-Unis et à San Francisco. Ok.
Ensuite, l'exosquelette d'Iron Man. Est-ce que vous voyez tout ce que c'est ou pas ?
Ouais.
Donc en gros, pour rappel, c'est un squelette externe. En gros, un appareil motorisé fixé sur un ou plusieurs membres du corps pour lui redonner sa mobilité ou augmenter les capacités. C'est principalement ça qui se passe dans les films de science-fiction, c'est pour augmenter les capacités. Notamment, genre, l'armure d'Iron Man, c'est le parfait exemple. Elle lui donne dans les comics ou les films des super-pouvoirs en augmentant sa force, en lui permettant d'avoir des armes sur ses bras, etc. Donc vous pensez que ça a été inventé avant ou après l'exosquelette ?
Personnellement, je pense avant, parce que l'homme, il a toujours recherché à développer sa puissance, etc.
Ouais, j'aurais dit avant aussi, parce que je me dis que mettre des vérins sur un bras, c'est pas non plus... en idée principale, je suis sûr que c'était pas aussi avancé que l'armure d'Iron Man, mais voilà, ouais. Comme disait Jason, l'idée de s'améliorer, je pense que c'est assez universel.
Après, bon, comme à chaque fois, j'ai l'impression que ça dépend aussi à quel point tu mets la face. Parce qu'en fait, il n'y a aucun exosquelette aujourd'hui qui peut s'apparenter ne serait-ce qu'un peu à celui d'Iron Man.
Si, mais... en vrai.
Ah ouais ?
Ouais, vraiment, de plus en plus. Hein. Il y a pas mal de programmes, par exemple, dans les armées américaines et tout. Par exemple, celui qui s'appelle Talos, où ça commence vraiment à ressembler à Iron Man. ou même on utilise l'exosquelette dans la médecine pour réapprendre aux gens à marcher, ou dans l'industrie pour les aider à supporter des charges de des trucs lourds et tout. Donc ça commence vraiment à y ressembler en vrai.
Okay. Est-ce qu'ils tirent des lasers?
J'ai pas vu ça, mais pourquoi pas.
En vrai, c'est possible.
Et du coup, la première expérience fonctionnelle d'un vrai exosquelette, c'était en l'an 2000, alors que Iron Man, du coup, c'est l'adaptation du comic book Marvel, mais ça a été créé en 1963. Donc, l'exosquelette, dans la vraie vie, est arrivé après Iron Man. Ensuite, j'aimerais finir en une petite mention spéciale pour la série Star Trek, puisque c'est quand même une série des années 1960 et on y retrouve vraiment une multitude de gadgets qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais à l'heure actuelle, comme les smartphones, les smartwatches, donc les montres connectées, la réalité augmentée, les imprimantes 3D aussi. Donc même si les téléphones portables à clapets sont certes un peu dépassés aujourd'hui, le fait de les avoir imaginés dans la série télévisée en 1960, c'est quand même franchement une vision d'avenir, je trouve.
Ouais.
Et voilà.
Merci. Merci Anna pour cette chronique. Donc on a parlé avec tous ces jeux de plein de choses, mais tout de suite on va parler. De quoi va-t-on parler? Je m'en perds un peu. Ah oui, d'Elon Musk. Donc on n'est pas loin de tous ces jeux et on va le faire avec Jason. C'est parti, jingle.
Donc vous écoutez toujours les échos de l'innovation sur Graphite 94.9.
Et c'est pas Jason,
c'est pas Jason.
Et c'est Oscar, excusez-moi.
Par contre, on va vraiment continuer sur la science-fiction, en parlant notamment d'Elon Musk et même un peu de Star Trek à la fin, donc ça rejoint pas mal. Donc pour commencer directement dans le sujet, on va comprendre que des grands hommes très influents dans les avancées technologiques se sont beaucoup inspirés de la science-fiction, notamment avec l'exemple d'Elon Musk, le milliardaire très controversé, propriétaire de multinationales comme Tesla, SpaceX ou Twitter, a été profondément influencé par La Fondation. C'est un livre d'Isaac Asimov. Cet ouvrage raconte l'histoire d'un empire galactique en déclin et développe le concept de la psychohistoire, une science fictive qui mélange les mathématiques, l'histoire et la sociologie et qui permet, dans la fiction, de prédire l'avenir de grandes populations. Le protagoniste, un brillant mathématicien, prédit la chute inévitable de sa civilisation et forme un groupe qui a pour objectif de permettre la reconstruction de son empire déchu. Cette histoire résonne beaucoup avec l'ambition de Musk de créer une civilisation humaine universelle, notamment sur Mars, qui est une vision où l'humanité s'étend et se préserve à travers l'univers. Une autre influence que je vais pouvoir citer pour Musk, c'est le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Ce roman raconte les aventures interstellaires d'Arthur Dent, qui est un terrien tout à fait ordinaire, qui est dans un univers rempli d'absurdité et d'humour, tout en conservant beaucoup de liens avec la science-fiction, un univers futuriste, etc. Cette approche ludique et inventive de la science-fiction se reflète dans la personnalité de Musk et dans ses entreprises audacieuses et son humour. Par exemple, on le voit dans The Boring Company, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise créée par Musk, mais il a notamment commercialisé un lance-flamme qui n'a aucun intérêt, mais simplement il trouvait ça fun de vendre un lance-flamme. Qui évidemment n'est pas une arme et fait pour tuer personne, mais ça l'a fait rire. Ses influences toutefois font débat. Les romans que j'ai cités racontent des récits proches de la dystopie et sont a priori loin de représenter un avenir souhaitable. Se dire qu'un personnage aussi sûr de lui et influent que Musk s'en inspire peut nous amener à remettre en question ses objectifs quand même. J'ai une autre anecdote. Musk a avoué dans un podcast de Joe Rogan, qui est un podcast très connu aux États-Unis notamment, que le design pointu d'une de ses fusées SpaceX, son entreprise d'aérospatiale, a été inspiré par le film The Dictator. C'est un film dans lequel le personnage principal, le dictateur, exige que ses missiles soient plus pointus que ceux qui ont été conceptionnés, car ils ont besoin d'avoir l'air plus agressif. Elon Musk, apparemment, ça l'a fait rire, et il a intégré cette idée dans le design de son vaisseau. On notera quand même que ce détail n'a pas été d'une grande importance. Il a précisé que ce changement ne faisait que réduire très légèrement l'aérodynamique du vaisseau. C'était plus pour la référence. Le propriétaire de Twitter n'est pas le seul à s'inspirer de la science-fiction. Steve Jobs et Jeff Bezos ont également été touchés par sa magie. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, a été captivé par 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke. Ce film et roman explore l'évolution de l'humanité et son interaction avec une technologie mystérieuse. C'est l'esthétique épurée et futuriste des technologies de l'œuvre qui ont inspiré les produits Apple et leur interface utilisateur très intuitive. Jeff Bezos, lui, a été inspiré par Star Trek, dont on parlait précédemment, une série qui dépeint l'exploration pacifique de l'espace par l'humanité. Cette vision utopique d'un futur où l'humanité s'étend dans l'univers a motivé Bezos dans sa quête pour rendre les voyages spatiaux accessibles au plus grand nombre, avec Blue Origin, sa société de voyages spatiaux. On comprend donc ici que, grâce au rêve qu'elle transmet à tous ses lecteurs, spectateurs et auditeurs, la science-fiction ne se limite pas à raconter des histoires sur le futur. Elle façonne activement les visions de ceux qui travaillent à construire notre réalité. Et voilà, c'est bon pour moi.
Yes, merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, après cette magnifique chronique, nous allons passer à la prochaine, avec une petite interlude musicale que je vais vous présenter. Et donc, je vais vous parler de Kid Cudi. Est-ce que vous connaissez Kid Cudi ici ?
Oui.
Non.
Donc, c'est un rappeur américain qui est un artiste aux multiples facettes. Et parmi ses talents, on compte la musique, mais aussi le cinéma, avec un film d'animation, Intergalactique. Est-ce que par hasard, quelqu'un l'a vu, ce film ?
Non.
Est-ce qu'il est sorti en France ?
Ouais, il est sur Netflix et je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est un film qui a été très bien accueilli avec 92% d'avis favorables sur Rotten Tomato, je crois 4 étoiles sur Allociné. Enfin, c'est quand même un bon film reconnu par ses pairs. Et donc nous allons nous plonger dans un univers artistique unique avec Intergalactique, un projet spécial d'animation qui est à la fois un film et un accompagnement musical. Intergalactique nous raconte l'histoire de Jabari, un jeune artiste de street art qui décide de se lancer dans le monde des comics en créant le personnage de Mr. Rager. Jabari vient tout juste d'aménager dans un superbe appartement à Manhattan, ce qui est en soi est une réalisation incroyable pour un artiste en herbe. Et il fait également la rencontre de sa charmante voisine, Meadow, une talentueuse photographe. Et donc au fur et à mesure que les pages du récit se tournent, les deux jeunes artistes se rapprochent et tombent amoureux. Le film explore les méandres de la créativité, de l'art et des relations amoureuses, tout en nous offrant un regard sur l'évolution de Jabari en tant qu'artiste. Intergalactique est un projet artistique novateur qui repousse les frontières du cinéma. Il a été développé par l'artiste Kid Cudi, comme je vous l'ai évoqué, et réalisé par Fletcher Moule. Ce film d'animation est à la fois visuellement saisissant et émotionnellement profond. Il fusionne des éléments de science-fiction, de romance et d'exploration artistique pour créer une expérience inoubliable. L'intérêt de ce film va au-delà de l'écran car il est accompagné d'un album donc, du même nom, Intergalactique, écrit bien évidemment par Kid Cudi, qui a fait pas mal de ses prods d'ailleurs. Donc cet album sert de bande-son à l'histoire en ajoutant une dimension musicale et émotionnelle unique à l'ensemble de l'expérience. Et donc là, je vais vous laisser avec Angel. Qui est un son. Je vous conseille vraiment de regarder ce film-là et vous comprendrez le réel sens de Angel pendant le film. Merci et c'est parti.
Angel in your halo.
the sunrise. It's like you know me, and I'm so lost in a dream. When I sleep, there you be. You're such an angel.
Voilà, pour cette petite parenthèse musicale de Kid Cudi. Et on va directement enchaîner avec Souleymane, qui va nous présenter des actus de l'UTC. Donc, petit jingle.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les actualités à l'UTC. Alors, pour commencer, les élections universitaires arrivent bientôt. Du 21 au 23 novembre 2023, l'UTC organise ses élections universitaires de manière électronique. N'oubliez pas de voter. Ah, je parle à vous. Et ainsi, améliorer la vie universitaire. Alors, pour les engagements écologiques et sociaux, excellente nouvelle. L'UTC figure parmi les écoles les plus engagées dans la transition écologique et sociale, selon le classement 2023 Change Now, les EcoStart. Un témoignage fort de notre engagement envers un avenir durable. De plus, UTC finaliste du prix pour l'innovation pédagogique. L'UTC est fier d'être finaliste de la deuxième édition du prix pour l'innovation pédagogique, une reconnaissance méritée pour notre engagement constant dans l'amélioration de l'enseignement. Et dernière chose, la réussite de l'étudiant Pierre Laclos, doctorant au laboratoire Eudiasic, pour avoir remporté le Best Student Paper Award lors de la conférence VTC Spring 2023. Son article sur la configuration prédictive des réseaux pour les véhicules à logiciels définis a été reconnu comme exceptionnel. Alors avant de conclure, un moment excitant avec l'événement Mai, on monte une exposition temporaire qui a inspiré tant de discussions. Une nouvelle association qui organise sa première exposition du 10 novembre au 2 décembre au programme peinture, photo et sculpture, un programme chargé qui satisfera toute personne aimant l'art. Il propose ainsi plusieurs activités organisées par 9 associations pour lier plusieurs formes d'art, danse et musique et d'autres formes d'art. L'événement a été sûrement l'occasion de rencontrer plusieurs personnes. Et avec nous, on a le présentateur Mehdi qui a eu la chance d'y aller.
Ouais.
Et d'assister à cet événement le 10 novembre. Mehdi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'événement et qu'est-ce qui t'a motivé à y aller?
Ouais. Est-ce que par hasard, il y a d'autres personnes qui sont parties au Met, l'expo? Non,
non. Non, malheureusement. Non.
Donc en fait, c'est une asso qui a même pas 4 mois et qui a organisé un vernissage. Donc ils ont présenté des œuvres par des artistes UTC1. Donc de notre école, soit qui sont actuellement à l'UTC, soit des alumni, donc des anciens ingénieurs, enfin des ingénieurs en métier. Et donc c'était ultra intéressant, ça a été ultra bien organisé. Donc pour une première, j'ai été bluffé. On a retrouvé pas mal d'assos, donc il y avait des assos de chant, de danse, il y avait aussi FSC, donc de mix, et pas mal d'assos, par exemple UCC, donc Unis contre le cancer, et Arabut notamment. Et donc il y avait pas mal d'assauts, il y avait pas mal de vie autour de ça. Et donc le but, c'était de présenter des artistes de l'UTC et donner justement une scène à ces artistes-là. Et franchement, il y avait beaucoup de talent, il y avait beaucoup de variations. On peut toujours aller le voir, Donc je ne sais pas si ça sera le cas au moment où l'émission sera diffusée, mais je parle autour de la table.
De mémoire, ça finit le 2 décembre.
Ouais, c'est donc, ce qu'on m'a dit. Donc je ne sais pas.
On espère.
Mais sinon, c'est possible d'aller le voir au centre d'innovation. Et donc, y a le palais d'exposition, justement. Et là, vous allez pouvoir voir. Donc, on a sculpture, peinture, huile sur toile, dessin, de tout, de la photo. Y a vraiment beaucoup de talent. Et j'ai dédicace à. Enfin, je la connais pas, mais Léna, j'ai adoré ce qu'elle a fait. Donc, si vous avez la chance d'aller voir cette exposition, vous m'en tirez des nouvelles. Voilà.
Ok. Une autre question, si possible. Est-ce qu'en lien avec notre sujet sur le cinéma et les avancées scientifiques, as-tu remarqué des interactions intéressantes entre le milieu de scientifique en étudiant l'UTC et durant l'événement?
Alors, le thème, c'était vivant.
Vivant, okay.
Donc, généralement, les gens n'ont pas forcément associé ça aux sciences. Ils ont plus associé ça à la nature, à différents aspects de leur vie, des rencontres, des transitions aussi. Et donc, pas tellement, mais j'ai été bluffé notamment par quelqu'un qui a réussi, en faisant de l'huile sur toile, s'il vous plaît, à reproduire un tableau, je sais pas, de 1 mètre par 2. On a l'impression que c'est une photo. Donc il y avait des artistes très très talentueux, de l'ultra-réalisme, de tous les styles, il y avait même de la couture. Donc pas vraiment de lien avec la science, mais très intéressant.
Ok, un événement intéressant. Et on sait bien que tu es dans l'association Radiographite. Est-ce que cette expérience pourrait influencer, enrichir ta culture, ton travail perso pour l'association?
Bah, je ne suis pas vraiment à Graphite.
Ah, ok.
Je suis à Floraison, donc une asso de rap qui a un canal ici, mais ça n'a rien à voir. Et c'était quoi la question?
Est-ce que ça t'a enrichi cette expérience?
Ouais, clairement, ouais. Et j'espère que ça va le continuer avec SI1. Et voilà.
Ok. Mais pour une dernière question, si possible, est-ce qu'il y a d'autres événements intéressants que tu conseilles à d'autres personnes, aux personnes qui nous entendent?
Bon, je vais laisser mon camarade faire sa pub pour la com.
Alors, il y a plein d'événements. Donc, déjà, pour l'asso pour laquelle je viens, donc Cinémut, évidemment. Normalement ce sera passé, mais il y a eu donc je parle du coup plutôt pour les gens du studio, mais il y a une diffusion ce mercredi 15 de novembre sur en partenariat avec CET, une discussion notamment autour de différents projets, par exemple l'opposition au canal Seine-Nord, etc.
C'est quoi CET? Tu peux nous rappeler?
CET, c'est Compiègne en Transition, qui est une association justement qui travaille, alors je vais faire très mal leur pub, mais qui travaille sur les enjeux environnementaux, écologiques d'aujourd'hui et de demain, et comment est-ce que à l'échelle de l'étudiant, de l'ingénieur, on peut agir. Et là, en l'occurrence, c'est en partenariat avec Cinémut, et donc faire passer un film autour de leurs engagements et d'ensuite en discuter. En parallèle, du coup, normalement, il y aura la comédie musicale le 9, 10 et 12 décembre, qui est un événement sur 2 ans, donc allez-y, ça va être super. C'est une comédie musicale montée de A à Z par 100 à 140 étudiants, et fait de A à Z avec les scribes, les costumes, l'orchestre, les acteurs, les danseurs, voilà.
Nickel. Merci Souleymane pour ta chronique, on peut quand même l'applaudir s'il vous plaît. Et avant de passer à la dernière étape, qui est le débat, on va se laisser avec un son de Divine Devine qui s'appelle Gotono. C'est parti. Thank you. Et voilà, je vous laisse écouter Gotenot de Divine Devine, une artiste très talentueuse, quand vous aurez le temps, et parce qu'elle fait de très très bons projets. Mais là n'est pas le sujet, car on va directement enchaîner avec la troisième chronique, celle de Louis, sur l'influence entre science et cinéma.
C'est ça. Alors, merci beaucoup. Donc, pour ma part, comme l'a dit Mehdi, je vais prendre le sujet d'aujourd'hui à contre-pied, et je vais m'intéresser non pas à l'influence du cinéma sur la science, mais à l'inverse, c'est-à-dire à l'influence de la science sur le cinéma. Je vais donc essayer de vous partager quelques éléments et quelques arguments qui iront dans mon sens en montrant donc que cette relation existe des deux côtés. Donc tout d'abord, la science et ses concepts les plus complexes et inhabituels peuvent être à l'origine et l'inspiration de certains scénarios de films. En effet, notre monde et plus généralement notre univers peut parfois avoir des allures de monde surréaliste par la présence de phénomènes dépassant l'imaginable. Par exemple, les trous noirs, qui portent avec eux un bon nombre de mystères. La mécanique quantique, elle aussi, nous décrit un monde probabiliste et désordonné. Tout l'inverse de ce qui nous entoure, une chaise ne va pas se mettre à bouger toute seule ou à disparaître d'un claquement de doigts. On peut citer bien d'autres exemples, mais le plus important, c'est de retenir que ces concepts, aussi effrayants que passionnants soient-ils, peuvent être une source d'inspiration pour certains scénaristes. Par exemple, Jurassic Park. Il a été inspiré par des avancées dans la génétique et la biologie. Autre exemple, Inception, un film de Christopher Nolan qui explore les concepts de la réalité virtuelle et de l'influence de l'esprit humain. Il s'appuie sur des idées de psychologie cognitive et de neurosciences. On peut aussi parler du fait que certains phénomènes et certaines avancées et découvertes dans la sphère scientifique deviennent l'origine de dilemmes moraux quand ils sont confrontés au grand public. On a dans un certain sens une sorte de remise en question de l'éthique. Le cinéma peut donc s'emparer de ces sujets afin de construire des scénarios et des personnages autour d'une question centrale. Ainsi, ceci peut encourager la réflexion et la discussion sur l'implication de la science dans la société et inversement. On peut prendre l'exemple d'Oppenheimer, qui est encore une fois un excellent film de Nolan, paru en 2023. Ce film nous replonge dans les années 40 et s'accapare, avec une grande finesse et une bonne intrigue, le sujet du développement de la bombe atomique, qui est donc une avancée scientifique, et traite ainsi de l'impact de cette dernière, sur la société de l'époque. On peut aussi citer Blade Runner, paru en 1982, qui est un film qui explore des thèmes liés à la création de répliques humaines et à leur traitement moral et éthique. De plus, au-delà de la visée polémique de ces films, censés remettre en question, encore une fois, notre vision de certains concepts scientifiques, ces films peuvent être une source éducative et sensibilisatrice. Des films comme Interstellar ou Gravity utilisent des principes scientifiques pour raconter des histoires captivantes tout en éduquant le public à des concepts spatiaux. Enfin, il est clair que la science a joué un rôle essentiel dans le développement des techniques cinématographiques tout au long de l'histoire du cinéma. Et en voici quelques exemples. Tout d'abord, au niveau des caméras et de l'optique. On a donc des caméras de plus en plus légères, compactes et polyvalentes, et qui sont permises par des avancées au niveau de l'optique, et en particulier par le développement de lentilles et d'objectifs de plus en plus avec de meilleure qualité. On peut aussi noter l'utilisation et le développement de la stéréoscopie et de la 3D pour créer une profondeur visuelle permettant donc de gagner en réalisme. On peut aussi noter des progrès dans les effets spéciaux avec le développement de l'animation par ordinateur, CGI, qui a révolutionné les effets spéciaux en permettant de créer des scènes, des personnages et des environnements entièrement numériques. De nos jours, il est presque banal de voir apparaître sur nos écrans des créatures fantastiques, des mondes virtuels ou encore des scènes d'action à couper le souffle. On peut aussi noter une démocratisation de l'utilisation des simulations physiques qui sont donc utilisées pour créer des effets spéciaux plus réalistes comme des simulations de fluides, de particules ou de destruction. On peut bien sûr citer plein d'autres exemples, comme au niveau du son, avec des expériences audio plus immersives, ou encore au niveau de l'animation et de la modélisation. Mais finalement, toutes ces avancées techniques résultent d'une collaboration entre les cinéastes, les ingénieurs, les scientifiques et les chercheurs. Et grâce à ça, grâce à la science, le cinéma peut continuer d'évoluer et d'offrir des expériences visuelles et sonores de plus en plus immersives et innovantes. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toi, Louis. Merci à toi, Louis. Et nous allons directement enchaîner avec le débat animé par Anna. Jingle.
Du coup, j'aimerais ouvrir un débat sur les impacts ou les rôles que peuvent avoir les films de science-fiction sur l'opinion publique autour de la thématique de la science. Est-ce que pour vous, ils sont plutôt un moyen efficace pour éduquer le public sur des concepts ou des avancées scientifiques, technologiques, en suscitant une réflexion chez le téléspectateur ? Ou est-ce qu'ils peuvent davantage déformer la réalité scientifique et influencer de manière relativement négative la perception de la science par le public, notamment en dramatisant de manière sensationnaliste ces enjeux pour divertir le public ? Grosse question.
Grosse question, effectivement. Est-ce que tu peux nous répéter la question, s'il te
plaît ? Ouais, t'inquiète. En gros, c'est est-ce que les films de science-fiction, c'est quoi l'impact ou le rôle qu'ils ont sur l'opinion publique ? Qu'est-ce que l'opinion publique pense de la science grâce aux films de science-fiction ?
Je pense déjà que ça peut dépendre des scénaristes, ceux qui ont créé le film, parce que c'est avant tout eux qui ont une idée en tête. Ils savent, avant de faire leur film, pourquoi ils le font, que revendiquer, etc. Et donc je pense que, oui, en fonction de la personne qui fait le film, il pourra déterminer s'il doit plus avoir une vision réaliste des phénomènes scientifiques, ou pas du tout, c'est-à-dire des grosses explosions, des trucs irréalistes, comme on peut voir comme on a pu voir dans les exemples des fausses idées. Voilà.
C'est vrai que autre argument, c'est que très souvent on va avoir tendance à amener on va lier le scientifique à un fou qui invente des choses dans tous les sens et qui est un génie par lui-même et pas forcément par ce qu'il a appris, par comment il l'a appris, etc. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma et c'est un peu dommage parce que c'est pas forcément réaliste, mais ouais, c'est quelque chose d'intéressant.
Ouais, ouais, je rejoins un peu Louis qui parlait justement que ça dépend des scénaristes. Je pense que ça dépend aussi de, on va dire, de plein d'autres acteurs, notamment je pensais aux maisons de production, ce genre de choses. Il y a un film qui s'appelle Rollerball, qui est justement un film de science-fiction et qui tente de traiter moult sujets sur des problèmes sociaux, politiques et comment est-ce que la technologie peut amener justement à des dérives. Et il y a une vraie différence par exemple entre ce qui est sorti en salle et la Director's Cut, qui est en gros le montage réalisé par le réalisateur lui-même et donc pas remonté pour les salles et donc qui en général est beaucoup moins vu. On peut aussi se voir que finalement ces films-là portent l'idée de ceux qui investissent dedans, mais des fois ça peut fourvoyer un peu l'idée initiale et en général c'est souvent pour un but commercial et le rendre plus on va dire conventionnel et plus lisse aussi. Je pense qu'un film se doit des fois de bousculer un peu les choses.
Par exemple, la série Black Mirror, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que ça éduque plutôt ou que ça peut faire peur à la population ?
Pour ma part, je pense que la série Black Mirror, ça montre une facette de la technologie, une facette que souvent on néglige. Qui peut avoir des percussions dramatiques pour les familles, pour la civilisation. Donc ça porte à la réflexion et faut avoir une certaine éthique autour de ces nouvelles inventions scientifiques qu'on a aujourd'hui et savoir comment l'utiliser dans certaines manières pour pas qu'il y ait de problèmes au futur.
Moi je pense que quand même les films ont le devoir de soit d'être très proche de la réalité, soit d'assumer qu'ils sont pas très proches de la réalité en faisant quand même comprendre aux spectateurs qu'on est dans de la fiction. Et par ça, le spectateur comprend plus facilement qu'il faut prendre du recul vis-à-vis de ce qui est montré dans le film. Et donc que tous les éléments qui sont affichées dans le film ne sont pas forcément réalistes, mais simplement des idées du scénariste. Quoi. C'est une question d'assumer un peu si son film est soit réaliste, soit en train d'imaginer des choses qui peuvent être aussi tout à fait intéressantes.
Ouais, d'un autre côté, quand on parle de science-fiction, par exemple, qui est un type de film où justement il y a beaucoup de technologies, etc., je pense pas qu'on puisse se dire de toute façon que c'est réaliste. Et pour autant, il y a des parallèles qui peuvent être hyper pertinents, comme. Alors, c'est des œuvres qui, à la base, étaient des livres, mais Fahrenheit 451, etc., qui a été adapté en film, qui est totalement de la science-fiction et de la dystopie, mais qui décrit des événements qui se sont passés. Enfin, globalement, l'histoire, c'est... on n'a plus le droit de lire, et les livres, tous les livres qu'on trouve sont brûlés. Et du coup, voilà, ça décrit quand même une réalité, mais qui est dans un univers irréaliste. Il y a un peu ce côté-là, je pense que c'est pas non plus utile de segmenter, de dire ça doit être irréaliste, ou le film doit justifier en disant que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et je pense qu'il peut y avoir aussi une frontière entre les deux. Voilà, justement.
Ouais. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a le mouvement dystopique qui prend de plus en plus d'ampleur, parce qu'on le retrouve très souvent, voire même trop. Et ça peut même être inquiétant par moments. C'est sûr qu'après s'être mangé une saison entière de Black Mirror sans s'arrêter, on ne peut pas ressentir indemne. Forcément, on peut cogiter sur des aspects. Et forcément, c'est intéressant de voir la conception que peuvent avoir les auteurs sur ce sujet-là, sur le futur, sur l'avenir. Et d'ailleurs, on va avoir une émission sur le sujet, sur le futur, sur la conception du futur, etc. Et voilà, on en parlera très certainement, on reviendra très souvent, très certainement sur la dystopie et du coup sur Black Mirror.
Ok, parfait, merci beaucoup pour votre participation à ce débat.
Et donc merci à vous, et on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci à vous. Jingle.